CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, en Aveyron, CFM, 107.9 et 90.2.
Allez, bonjour tous, bon début de semaine, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, c'est le mag Aveyron, santé, bien-être, mieux-être encore et même pâquerette avec, pour commencer, Karine Justo, nutritionniste, diététicienne, intervenante en goût et bonjour Karine Justo.
Bonjour David, bonjour à tous les auditeurs.
De quoi allez-vous nous rassasier les oreilles? Ouais, c'est ça.
Eh ben oui, eh ben écoutez, je pense qu'on peut aisément parler, c'est encore bien de saison là et peut-être ça peut redonner à certaines personnes envie de la cuisiner, je veux parler de l'endive.
Ah, l'endive, c'est l'endive. Bon, l'endive qui croque voilà. Sous la dent. Et vous nous le dites tous les ans, l'endive braisée, attention, c'est pas bon.
Bon, non, c'est pas vrai, je ne le dis pas. Vous pouvez dire des choses quand même.
Vous le dites, c'est très dangereux pour le corps et l'organisme.
C'est pas vrai. Mais ceci dit, c'est très intéressant ce que vous dites parce que j'ai prévu de vous faire une petite rubrique sur les points de fumée concernant les matières grasses. Et donc, l'endive braisée, il faut quand même de la matière grasse. Donc, ça me fera une introduction.
C'est pas bon, l'endive braisée.
Voilà. Mais si, c'est très bon, l'endive braisée. En tous les cas, savez-vous depuis combien de temps nous la connaissons?
L'endive, je saurais pas vous dire. D'ailleurs, elle a un mode de culture qui est un peu particulier. Elle est coupée de la lumière, je crois, l'endive.
Oui, tout à fait. Et alors, sachez que ce sont les Grecs, nos amis les Grecs, qui l'avaient déjà repérée. C'est une forme de chicorée sauvage. Et il y a de ça 200 ans avant notre ère.
Ah,
j'ai bien
dit
repérée.
Oui.
Hein.
Vous faites votre historienne aujourd'hui, c'est la chronique historique.
Voilà.
C'est...
Bah, toujours, quand on parle d'un aliment, je trouve que c'est quand même intéressant.
C'est bien, oui.
Et les Grecs, eux, avaient compris que c'était l'ami du foie, comme ils disaient, l'ami, une copine. Parce qu'effectivement, ça permettait d'avoir une bonne action sur le foie. Après, il a fallu quand même attendre pour l'avoir cultivée en France. 1850, vous voyez que là où on a fait un grand bond dans l'histoire, dire que ça n'est pas forcément un légume facile à cuisiner ou que les gens aiment plus que ça, ou aimaient plus que ça, devrais-je dire. Et après, ce n'est que 30 ans plus tard que vraiment, à Paris, ça y est, on commence à consommer de l'endive. Et alors, la grande période où l'endive a été encore plus développée, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans le nord de la France, la Belgique, vous savez, le picon, on appelle ça. Parce que c'était un légume qui n'était pas du tout cher à cuisiner.
Le picon, vous avez dit ?
Non, mais je me suis trompée.
Ah oui, le picon, oui. Moi je le voyais
C'est l'alcool. Pardon, j'ai fait une faute, mais ça me vient pas là justement. C'est pour ça que j'ai eu un petit.
Ah bah picon, vous avez eu un drôle de réflexe quand même.
Le
picon,
Pardon à tous les gens du nord de la France. Non, je sais combien ils sont nombreux dans l'Aveyron. alors comment on la prépare ? Parce que effectivement, et notamment, je pense si on a des enfants, c'est souvent pas leur légumes préférés, mais on peut faire aimer les légumes, les endives aux enfants si elles sont bien choisies, si elles sont bonnes, si elles sont bien cuisinées. Voilà, alors déjà comment on la choisit ? Il faut qu'elle soit ferme, blanche, des bords jaunes, et vous savez surtout il faut que les feuilles soient serrées. Donc ça c'est gage un peu de fraîcheur aussi. L'avantage qu'elle a, c'est à mon sens de pouvoir se conserver facilement 4, 5, 6 jours dans le bac à légumes. Elle va pas s'abîmer. Il faut avoir à l'esprit qu'il faut toujours nos végétaux les préserver de la lumière parce que sinon on va perdre une partie des vitamines. On en perd déjà de toute façon. Mais encore plus si on les laissait à l'air ambiant d'une part et puis à la lumière. Donc on la met dans le bac du légume. Comme la salade, on peut le mettre dans un tissu ou un essuie-tout, ça va la garder encore plus. Et surtout, si on la met à l'abri du soleil, donc dans le frigo, on va éviter qu'elle ne prenne trop d'amertume. D'accord, parce qu'au fur et à mesure, effectivement, où elle va mûrir, elle va prendre de l'amertume.
C'est amer un peu de base, l'endive.
Alors, de base, mais quand même, sachez qu'aujourd'hui, sur notre marché, quand on achète des légumes, eh bien, la plupart du temps, ce sont des hybrides que les botanistes ont fabriqués de toutes pièces pour enlever une partie de ces amertumes.
Et les propriétés nutritionnelles, c'est en dessous de zéro, j'imagine, c'est trois fois rien.
Pas en dessous de zéro, il n'y a que l'eau qui soit à zéro, David, je le rappelle.
Oui, parce que, mais c'est pour faire blague, vous m'aurez compris.
Oui, d'accord, pour la blague, ok. Mais je le dis quand même pour les nouveaux auditeurs de 2019, il n'y a pas d'aliments qui ne nous amènent pas d'énergie, donc de calories, si ce n'est l'eau. Après, il y a des aliments moins riches que d'autres. L'endive fait effectivement partie des aliments très peu caloriques et avec tout un tas d'autres vertus nutritionnelles. Alors j'ai envie de dire comme tous ses cousins les légumes, Hein, des vitamines, de la vitamine C, des fibres, de l'eau pour le coup évidemment, hein, 90% d'eau, 80% d'eau, c'est ça participe au capital hydrique, d'accord, à l'apport hydrique, et aussi concernant la l'endive, de la vitamine B9, donc qui est très bonne pour les mamans qui attendent des bébés. Hein, d'accord.
Bon, donc il y a ça, tellement rien dans l'endive qu'il faut, quand on prépare une salade, rajouter 2-3 bricoles, des cerneaux de noix, du
alors
roquefort.
On va passer
une petite recette, une salade d'endive.
Recette, effectivement. Juste avant d'aller sur des recettes un petit peu plus précises, disons que l'endive est quand même très simple à préparer, que malgré tout, sur cette amertume, j'y reviens pour la diminuer un petit peu, vous enlevez ce qu'on appelle le trognon, là, le petit cône, vous savez, à l'intérieur, hein, la partie dure. Ben, l'amertume est logée beaucoup dans cette petite partie-là. Donc déjà de l'enlever, ça permet quand même de la faire manger à plus de personnes. Alors on peut la manger crue, vous avez raison.
Moi j'aime bien les cœurs d'endive, là, quand ça traîne dans la salade.
Alors ramenez tous vos cœurs d'endive dorénavant, s'il vous plaît, à David. Donc on peut la manger crue, les vrais, mais on peut aussi la manger cuite. Et alors on peut la faire cuire de toutes les manières possibles, au four, à la poêle,
non,
à la vapeur.
Non.
Au micro-ondes,
on n'a pas le droit de faire ça.
Pourquoi ?
On n'a pas le droit de cuire l'endive.
C'est délicieux, l'endive cuite braisée.
Non, c'est faux. Avec une petite béchamel, je parie, et puis une petite tranche de jambon. Non, mais la blague.
Exactement.
Non, c'est pas bon.
L'autre jour, tiens, j'ai cuisiné une tarte à thym d'endive. C'était absolument délicieux. Alors certes, vous pouvez rajouter une petite cuillerée de sucre en poudre au niveau nutritionnel. Certes, c'est pas le top, mais il en faut tellement peu pour donner ce petit goût caramélisé et vraiment, c'est très très bon.
Arrêtez, vous me faites peur.
Ben parce que vous n'aimez pas ça. Vous pouvez la faire en tartiflette aussi. Vous pouvez la faire
mille
et une manières.
Non.
Vous n'avez pas d'imagination, David.
Si, mais pas de sacrifice. La tartiflette, ça se fait pas comme ça.
Ça, c'est votre goût, effectivement. Et je crois qu'effectivement, l'endive, ben voilà, on peut aussi la redécouvrir. Voilà, blague à part. Traditionnellement, on la mange crue en salade, mais pas que. Et c'est quand même un légume d'hiver. L'hiver, on n'a pas tant de légumes que ça de saison à notre disposition. Donc, ce légume, si on arrive à multiplier les recettes, eh bien, on gagne. Voilà.
Et on a tendance à l'oublier aussi. Alors, c'est bien d'en reparler aujourd'hui et puis de remettre l'endive sur le devant de la scène grâce à vous, Karine Justo. D'ailleurs, une salade d'endive dans le menu de ce début février, je suis
c'est
sûr.
C'est la semaine prochaine.
C'est la semaine prochaine,
voilà.
C'est
bon,
ça, absolument.
Ben, on va voir.
Bon, très bien.
Là, on en a parlé en même temps, donc on va voir. Pas sûr.
Quoi d'autre sur l'endive? Non, on a fait le tour à peu près. Ouais, bon. Belle journée, Karine.
Également à tous les auditeurs.
Et la suite du programme avec une rapide musique. Delphine Henneke, Nature Rock Pat, mycothérapeute en studio les lundis sur CFM. On parle de santé, de bien-être et d'équilibre alimentaire.
CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30, en Aveyron, CFM, 107.9 et 90.2.
Allez, vous venez de nous rejoindre, soyez les bienvenus. Deuxième partie de cette édition du magazine d'actualité avec en studio Delphine Henequet. Coucou Delphine.
Coucou David.
Delphine Henequet, comment là-bas, la Maïté de la naturopathie, hein, c'est la deuxième partie de cette édition du magazine d'actualité. Bien-être, mieux-être, c'est dans le prolongement de la nutrition et de l'équilibre alimentaire dont tu parles aussi de ton point de vue de temps en temps. Aujourd'hui et de mémoire, tu nous annonçais les métaux lourds, c'est
les
bon ça.
Les métaux lourds, ouais, l'intoxication aux métaux lourds, tout à fait,
bon,
ouais.
D'accord.
Oui, c'est vrai. Tu as retenu pour une fois, c'est bien.
Une chronique en fusion aujourd'hui.
Et oui, parce qu'on en parle, on en parlait la semaine dernière lorsque nous avons parlé du poisson et des produits issus de la pêche, les métaux lourds qui s'accumulent dans notre organisme. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, évidemment, il y a tous ces métaux qui n'ont strictement aucune utilité pour notre organisme, mais qui s'accumulent, voilà, comme le cadmium, le mercure, le plomb, l'aluminium. Voilà, on n'en a pas besoin, mais malheureusement, on en contient.
On fait éponge.
Et puis, il y a tous ceux qui sont utiles pour notre organisme, mais qu'on peut accumuler aussi en trop grande quantité et qui vont causer des dommages, comme l'or, l'argent, l'arsenic, le nickel, l'étain, le titane, le cuivre, etc.
Le zinc.
Par exemple.
Ouais.
Enfin, le zinc, on a plus tendance à manquer quand même.
Mais oui, tout le temps.
Voilà, alors d'où viennent ces fameux métaux lourds ? Donc évidemment du poisson, comme j'ai pu le dire, mais pourquoi ils sont retrouvés aussi dans le poisson ? Puisqu'ils sont issus, ces métaux sont issus des activités humaines, hein, des forages, voilà, de l'érosion naturelle de toute façon, mais les activités humaines en fait ont précipité en fait dans l'atmosphère voilà, certains métaux. Nous on va les retrouver donc dans notre eau, dans l'air bien sûr, comme je viens de le dire, mais aussi voilà, dans ces constituant de nos objets du quotidien, hein, comme les bijoux, la vaisselle, voilà, les peintures,
le tabac,
les amalgames dentaires, voilà, n'en parlons pas, le tabac bien sûr, et les médicaments également, et puis évidemment l'alimentation avec une accumulation dans les poissons en particulier, mais il n'y a pas que ça.
Des métaux dans les médicaments ?
Ouais.
Ah bon, hein, d'accord. L'aluminium, exactement. Peut-être ?
Un petit peu, mais c'est pas les seuls. Mais voilà, à des doses. Alors évidemment, tout ça, c'est toujours à des doses très très faibles. Mais le problème, c'est que ça produit une accumulation et donc une vraie toxicité pour notre organisme avec voilà comme symptômes la fatigue chronique, des troubles digestifs et en particulier, je parle souvent de cette agression de la muqueuse intestinale et qui va engendrer des hyperperméabilités et plein d'autres soucis voilà de santé dont on parle régulièrement, des problèmes de mémoire, d'atteinte neurologique, mais aussi de problèmes immunitaires, des troubles psychiques et puis des douleurs musculaires, articulaires, chroniques. Voilà, ça peut être une cause. Alors le truc, c'est comment on fait pour savoir si on est intoxiqué ou pas.
Ah oui, déjà, pour commencer, avant de toi, tu vas nous parler des champignons, je le sens bien, tu vas nous sortir.
Ouais, peut-être que ça va arriver, oui.
Le grand éboueur du corps, là, machin, je sais plus comment il s'appelle, il est affreux comme tout, champignon, mais tu vas nous en parler, je suis
alors
sûr.
Là, tu parles pas comme ça des champignons, s'il te plaît.
Ah non, pardon, je confonds avec celui qui, on dirait une serpillière espagnole retournée, l'Erythium.
Pas du tout.
Mais c'est pas celui-là.
Pas du
tout.
Comment la serpillère, mais arrête, la crinière du lion, il est magnifique, ce champignon.
Affreux.
Une petite boule de poils, là, il est magnifique. Affreux. Ah non, je peux pas te laisser parler, dire ça, c'est hors de question. Alors, comment savoir ? Le problème, c'est que c'est compliqué. Parce que, alors, soit on fait des analyses sanguines, bon, mais ça va nous donner une idée peut-être des métaux qui sont en circulation dans notre organisme, mais pas se accumuler dans les tissus. Alors, on se dit, bon, l'idée, c'est peut-être d'aller voir dans les urines. Mais s'il y en a dans les urines, c'est peut-être que le corps est en train de les éliminer et c'est peut-être plutôt une bonne chose. Donc, peut-être qu'il n'en reste pas forcément d'accumuler dans les autres tissus. Pareil pour les cheveux. On peut faire des prélèvements et regarder au niveau des cheveux, mais ça peut être aussi signe que l'organisme effectivement a éliminé par le cheveu, par le cuir chevelu, ces fameux métaux lourds. Donc c'est compliqué de savoir si effectivement c'est un signe d'élimination correcte ou si c'est trop d'accumulation dans l'organisme. Bon, pour ça, il y a un test qui est beaucoup plus fiable, qui s'appelle le test, qu'on utilise aussi pour tout ce qui est alimentaire, le test MELISA. Voilà, c'est un test immunologique qui nous permet de savoir en fait s'il y a une réactivité, s'il y a en fait une hyperactivité, s'il y a en fait des, si on a développé certains, l'organisme a développé certains
stratagèmes, on va dire, pour lutter contre des agressions. Donc là, ça peut être pour le coup des métaux lourds ou certains aliments qui sont pas du tout reconnus comme intéressants pour l'organisme. Et donc, ils créent soit de l'allergie, soit en fait des intolérances. Mais c'est pas très très marqué, on le sait pas. Il y a que en fait ces dosages-là qui vont nous permettre d'avoir une idée précise. Mm-hmm. Est-ce que ça va, c'est clair ou pas?
Oui, t'es à fond. Ouais, je suis à fond.
Alors. On se dit, ça ferait pas de mal de temps en temps de quand même faire une petite cure pour éliminer de toute façon ces métaux lourds qu'on a forcément accumulés. Je vous le dis, il y en a dans ne serait-ce que dans les teintures pour les vêtements, dans les bijoux, dans le verre, dans tout ce qu'on côtoie. De toute façon, on a des métaux qui s'accumulent dans notre organisme. Alors, on sait qu'il y a un oligo-élément qui est très très important pour la chélation. On appelle la chélation, c'est-à-dire l'élimination des métaux, c'est le sélénium. Le sélénium qu'on trouve par exemple dans les noix du Brésil. Donc on consomme de manière régulière, voilà, c'est un super antioxydant, il permet d'éliminer les autres. Pourquoi s'en passer? À titre préventif, voilà, c'est une très bonne idée. Et puis ensuite, il y a une algue qui est très très connue pour ça, c'est la chlorella. Alors la chlorella, elle va donc chélater, elle va emprisonner en fait les métaux qui se baladent dans notre organisme pour pouvoir les éliminer donc via les sels. Le problème c'est qu'elle va pas aller chercher ce qui se sont accumulés dans les tissus. Si c'est accumulé dans le cerveau ou certains autres tissus qui sont toujours des tissus très gras, en fait elle va pas forcément aller les chercher. Donc bon, là c'est pas une solution, c'est une solution mais partielle. Par contre, il existe un produit qui s'appelle Déchélaction, qui là, en fait, va travailler sur... Alors, c'est une composition, il y a des champignons dedans, il y a aussi certaines plantes qui vont aller capter les métaux lourds qui sont accumulés, les fixer et les éliminer, aider vraiment au drainage, à éliminer par le rein, par l'intestin, voilà, éliminer ces métaux. Alors, ça permet de faire un nettoyage. Maintenant, moi, je vous recommande quand même d'être accompagné pour ça. Parce que parfois, aller déloger des métaux, on peut faire pire que mieux. Donc, est-ce que l'idée, c'est pas plutôt d'être dans la prévention régulièrement, de faire des petits nettoyages avec, par exemple, des champignons?
Voilà. Et alors, c'est quoi le grand éboueur? Il me revient pas le nom de...
Le polyporus.
Ah, le polyporus.
C'est le grand éboueur. Mais alors, il faut se dire que tous les champignons vont avoir ce côté, pratiquement tous, des pollueurs. Leur capacité enzymatique leur permet en fait de transformer les hydrocarbures qui sont dans les sols. C'est vraiment ceux qui vont décontaminer les sols. Ça se fait beaucoup aux États-Unis. Ça commence à arriver un petit peu en France. Alors, on connaissait la phytoremédiation. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, c'est la mycorhémédiation.
Mais ces champignons, il ne faut pas les manger par contre. Hein. On ne peut pas les consommer. C'est pas recommandé.
Oui et non. Parce que j'ai lu une étude, figure-toi. Moi, j'étais comme ça en disant attention, voilà. Bon. Faut pas être stupide.
C'est comme les poissons, non?
Non, mais faut pas être stupide. Évidemment, si on s'est servi de champignons pour dépolluer un sol de ces hydrocarbures, bon, ça me viendrait pas l'idée d'aller les manger. Mais, en fait, ils ont fait des analyses et ils se sont rendus compte que le champignon, en fait, n'avait pas juste capté et accumulé, mais avait vraiment, grâce à sa capacité enzymatique, vraiment transformé et qu'on ne retrouvait plus à l'état, en fait, les hydrocarbures. Ça fait partie vraiment, ils sont des grands transformateurs en fait, hein. ils vont carrément transformer du tout et dépolluer, casser en fait les chaînes pour permettre en fait le nettoyage complet. C'est formidable. D'ailleurs, il existe une entreprise en France qui s'appelle Polypop et qui utilise les champignons sur plusieurs domaines. Donc effectivement la dépolluer grâce les terrains qui ont été envahis de pesticides et autres produits indésirables, on va pouvoir complètement nettoyer avec les champignons. Mais aussi le champignon, ça a beaucoup d'avenir parce que on peut utiliser aussi ses fibres, on peut utiliser cette matière pour aller vers ils ont utilisé pour faire des produits pour l'isolation, on pourrait fabriquer des carburants, enfin il y a plein de choses. Les champignons, c'est vraiment quelque chose d'avenir au niveau et de la santé et très certainement au niveau écologique également. En tout cas, ils ont vraiment cette capacité de chélation, mais aussi cette capacité de destruction au niveau enzymatique de tous ces polluants. Donc évidemment, s'ils ont cette capacité, s'ils ont ces stratégies et ces molécules utiles pour les sols, bien sûr, lorsqu'on les ingère, on dispose aussi de ces stratégies-là. Et ça nous permet de faire un nettoyage du corps, en particulier quand on fait des traitements lourds, quand on prend des médicaments qui accumulent ce genre de métaux. Et bien là, on sait qu'on favorise un nettoyage complet.
Petit rappel de principe sur le test, je m'en rappelle déjà plus.
Mélisa ?
Le test Mélisa, on le trouve où ? On le demande
alors,
à qui ?
Alors, on peut aller voir des thérapeutes. Mais si, on peut le faire soi-même. Ah, en fait, il suffit de contacter le laboratoire Immunopro. Voilà, Immunopro. Et tout simplement, en fait, on fait faire une prise de sang et on envoie sa prise de sang. Alors, il y a plusieurs forfaits, on va dire, hein, plusieurs choses à tester. Et là, c'est en fonction, en fait, des personnes et de leurs objectifs. Mais effectivement, ça peut être soit pour des problèmes d'inflammation chronique et on ne sait pas d'où ça vient, on voudrait éliminer en fait les agents responsables de ça et donc dans son alimentation, mais ça peut être aussi si on a été exposé à des métaux lourds, se dire peut-être que c'est une des causes de mes problèmes chroniques de santé et je peux peut-être essayer de les identifier et pour pouvoir ensuite soigner de manière judicieuse.
Le test Mélisa et le complexe machin
Déchélaxion, mais après moi je vous recommande quand même l'idée c'est de se dire il y a des solutions. Mais aller quand même après vers un thérapeute pour avoir une solution qui soit adaptée et personnalisée.
Ah ça, tu nous le dis souvent. Il y a effectivement, on ne décède pas à tous les coups, quoi. Il y a pas de fatalité, quoi. Pour toi,
non,
c'est.
Il y a pas de fatalité.
Des fois, on peut comme toi vivre 343 ans.
344 cette année.
Ah oui. Et ben voilà, les métaux lourds aujourd'hui. Un petit complément, une petite synthèse. Non, faut se surveiller. Les signes, c'est comme toujours et comme d'habitude, c'est la fatigue, le stress.
Mais non. Ça peut être quelqu'un qui a une fatigue chronique, c'est-à-dire qui est dans l'incapacité, qui se traîne en permanence, il sait pas pourquoi, qui a des troubles digestifs, des inflammations de partout, des troubles psychiques, de la dépression et autres. C'est créé par une inflammation chronique. Cette inflammation chronique, on en parlera de toute façon l'inflammation. Je vais vous bassiner avec l'inflammation tout au long de l'année. Je vais vous bassiner. Cette inflammation chronique, elle a plusieurs origines. Mais les métaux lourds font partie, parce qu'on les retrouve aussi dans les vaccins, ou autres, dans les médicaments et dans notre environnement, font partie des facteurs qui favorisent effectivement la dégradation de la muqueuse intestinale et donc cette protection contre l'environnement et donc en fait des réactions inflammatoires qui sont des réactions en fait de survie. L'idée c'est que l'organisme en fait crée de l'inflammation pour essayer d'éliminer en fait les agresseurs. Mais le problème c'est quand il rentre en permanence, eh bien l'inflammation devient chronique. Et donc si on essaie petit à petit d'éliminer en fait ces fameux agresseurs, eh bien on peut tendre vers une guérison et calmer cette inflammation.
Ça ne fait pas tourner l'économie.
Ça ne fait pas tourner l'économie, mais par contre...
De se soigner, ça fait tourner l'économie.
L'avantage de se tourner vers cette étude de l'inflammation, et les études qui, de par le monde, et tout ce qui... Et puis mes recherches aussi sur tout ce qui concerne le cerveau, en particulier la maladie d'Alzheimer, dont je parlerai la semaine prochaine, fin d'Alzheimer. Là, on se rend compte qu'en fait, il y a des vraies solutions. Mais en France, on est encore à la bourre.
Tu vas encore nous parler de champignons. On croirait presque que tu es mycothérapeute.
Oui, mais non. En fait, je n'ai pas parlé que de champignons. Mais c'est vrai, je suis mycothérapeute. Ça,
D'accord.
Je le confesse.
On termine. Enfin, tu termines avec une petite recommandation. Une conférence, un salon, un produit.
J'ai envie de rester dans le thème et aller encore plus vers ce qu'on a évoqué au niveau de l'avenir grâce aux champignons. Et il y a sur Arte un reportage qu'on peut voir sur YouTube qui s'appelle Arte le champignon, un artisan de la chimie verte. Pour l'aspect écologique dont je parlais tout à l'heure, très intéressant à voir. Donc je vous le conseille.
C'est la recommandation.
Le champignon, un artisan de la chimie verte. Sur Arte.
La semaine prochaine, la maladie d'Alzheimer.
La fin d'Alzheimer. La fin d'Alzheimer, parce qu'en fait, c'est le titre d'un ouvrage qui s'appelle La fin d'Alzheimer avec des vraies solutions. Et ce professeur qui a écrit cet ouvrage. Il est américain, a des résultats de rémission. Il faut le savoir. On saurait plus la semaine prochaine.
On aurait plutôt tendance à croire que c'est une fatalité.
Eh bien, justement, La bombe, c'est ça, c'est Alzheimer, n'est pas une fatalité.
Allez, bis Delphine, belle journée, on retrouve l'intervention podcast sur le site cfmradio.fr. Ciao.
Ciao.
CFM, le mag, tous les jours, 12h30, en Aveyron, CFM, 107.9 et 90.2.